Madame Barbara Guillot. Nous avons des procurations, celle de M. Clavery pour M. Cassard, celle de Mme Muller pour M. Romano. Nous n'avons pas été destinataires de remarques relatives au dernier procès-verbal. Est-ce qu'il y a des remarques en séance par rapport au dernier procès-verbal du dernier conseil municipal?
Bonjour. Non, c'était juste pour savoir si je pouvais poser une question avant l'ouverture officielle du conseil municipal, parce que déjà, vous savez qu'on a vécu une situation...
Attendez, M. Bourguet, je vous arrête tout de suite. Je vous demande si sur le dernier conseil, vous avez une remarque à faire.
Non.
Bon, mais c'est très bien. Donc, nous adoptons le dernier procès verbal. Je donne les informations, je suis le maire, vous êtes le conseiller, je vous donnerai la parole si vous la demandez. D'accord. Pas de problème.
Merci.
Donc, nous considérons le procès verbal comme adopté. Donc, pas de point retiré à l'ordre du jour, ni de point à rajouter, si ce n'est des interventions, que vous pourrez faire, bien sûr, selon l'esprit démocratique qui anime cette Assemblée, et mon esprit. Donc, nous devions tenir ce conseil municipal dans cette même salle la semaine dernière, et pour les raisons que vous connaissez, donc nous n'avons pu le faire, il se tient aujourd'hui. Donc je tiens à revenir sur les inondations qui ont frappé notre commune. Notre commune, nous sommes à Carnon aujourd'hui, c'est Carnon bien sûr, mais c'est aussi Rognières, c'est aussi Les Garrigues, c'est aussi Mogio. Des inondations consécutives donc à d'autres inondations qu'ont connu d'autres villages. Et d'abord je dresse un constat qu'il n'y a pas eu de victimes, ce qui est déjà une bonne chose, contrairement à d'autres endroits. Un constat qui me permet de constater un élan de solidarité que je tiens à souligner de la part de nombreuses personnes carbonaises, melgoriennes. Des fois, c'était des gens de passage. C'est surtout les gens de passage qui ont bénéficié de la solidarité, de l'engagement sans faille des services municipaux, que je remercie, qui ont été sur le pont toute la nuit, et à Carnon et à Mogio. On a sorti déjà à 3h du matin, ici à Carnon, et je connais la détresse des personnes sinistrées, même si on n'a pas à regretter de pertes humaines. En revanche, les pertes matérielles sont lourdes, très lourdes. Pour commencer par celle de Carnon, j'ai pu, lors d'une visite, me rendre compte du dommage dans la rue des Quatre Fondateurs, dans la rue du Jeu de Boules. J'ai pu mesurer également les problèmes qu'ont connus les commerçants au port et toutes les cas inondés, les difficultés de certaines personnes qui n'ont pas pu regarder leur domicile, les personnes âgées également, et j'ai pu mesurer la solidarité qui s'est instaurée au sein de l'accueil qui a été donc mené au gymnase Anquetil à Carnon, à l'espace Morassel à Mogio, et également au gymnase du collège où nous avons accueilli des collégiens toute la nuit, où certains professeurs sont restés. Nous avons des enfants qui ont été consignés dans les crèches, dans les écoles, et je remercie tout le monde pour le dévouement dont ils ont fait preuve. Et je sais également qu'il y a des commerçants ici à Carnon. Il y a monsieur... Je vais simplement dire que c'est le magasin Utile et le fournil des oliviers qui ont été particulièrement généreux. Nous sommes allés personnellement les remercier. Je sais qu'ils ont été aux côtés de Laurence Gély qui, avec les élus sur place et les services, ont été présents sur Carnon, comme nous l'avons été à Mogio, où Intermarché a été très généreux et a offert tous les déjeuners à tous les gens sinistrés. Donc, nous avons également fait le tour du monde agricole, qui est celui qui est le plus sinistré. Il y a certaines entreprises qui ont perdu jusqu'à 300 000 euros. Donc, c'est énorme. On ne peut pas se satisfaire du fait qu'il n'y a pas eu de victimes. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le bilan. Nous sommes en train de faire le tour des diverses collectivités, donc des commerçants, des exploitants agricoles, des personnes qui ont des animaux, des personnes qui ont perdu des biens, et nous sommes dans une démarche de secours de première urgence. Monsieur le ministre de l'Intérieur, comme vous le savez, est venu mercredi dernier constater donc comment la cellule de crise s'était mise en place, comment les services municipaux, départementaux et même de sécurité civile, de protection civile, et comment la préfecture éducation nationale avait donc de concert agi à nos côtés pour, disons, essayer de d'endiguer cette cette catastrophe naturelle. Alors, le Conseil des ministres, d'après-demain, devrait, au dire de M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, classer la commune en état de catastrophe naturelle. Voilà, donc ce qui va accélérer, bien sûr, les procédures d'indemnisation. Pour autant, ça ne va pas rendre aux personnes le bien qu'elles ont perdu, mais c'est une procédure qui atténuera un petit peu les dommages financiers subis par plusieurs personnes. Nous nous sommes occupés d'abord des écoles, au niveau du recensement. Nous nous sommes occupés des personnes qui ont des animaux, notamment sur les pourtours de la ville. Nous sommes occupés des personnes qui avaient à sauver une récolte. Nous sommes en train de recenser petit à petit. Je sais que certains collectifs, certains sont présents ce soir, certains nous les avons joints depuis la semaine dernière, des rendez-vous sont pris dans les jours à venir. C'est vrai qu'on ne peut pas secourir tout le monde et tout de suite. On verra au coup par coup comment ces problèmes peuvent être prévenus, en sachant que le plan de prévention des risques a bien fonctionné, notamment sur Moguio, qui avait été en 2003 victime d'inondations très graves au niveau de la Valorie. Et je salue les travaux qui ont été réalisés en 2003, il y en a eu pour 1,7 million, 1,8 million, qui ont permis, grâce à des pales planches, de mettre hors d'eau un secteur qui avait été imprudemment ouvert à l'urbanisation. Donc nous avons évité le pire de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, la canoule a fait des ravages, notamment dans les états horticoles du Calvé. Voilà. Bon, les animaux n'ont pas été inondés, mais enfin, on a eu beaucoup de personnes dans la peine. À Carnon, les points bas ont été bien entendu et malheureusement inondés, tout comme les accès au niveau du rond-point de l'aéroport, où nous sommes en train de mener une opération de faisabilité pour aménager Fréjorque Est. Et sachez que depuis 3 ans, il y a des mesures compensatoires qui s'élèvent entre 4 et 500 000 euros que la commune va faire avec la communauté d'agglomération au niveau du hameau de Vauguière-le-Bas. C'est dire que toute la commune a été touchée par cette menace qui aujourd'hui est étudiée dans le cadre du CIMBO, qui est le syndicat intercommunal, le syndicat qui regroupe l'agglomération de Montpellier, l'agglomération du Pays de l'Or, la communauté de communes du Pic Saint-Loup, la communauté de communes du Pays de Lunel, où au niveau de l'échelle du bassin versant, un petit peu comme le cible et comme le Lesbosson au niveau de l'Atte, travaille pour un plan de prévention des risques, un plan de prévention, c'est-à-dire faire en sorte qu'on aménage différemment en amont, puisque nous sommes, nous, tout à fait en bout de course, et nous récoltons parfois les imprudences, ou en tout cas les difficultés qui viennent de plus haut. Donc, nous sommes en train d'élaborer ce qu'on appelle un plan de prévention des inondations, un papier d'intention. J'ai demandé au ministre, monsieur le préfet, d'activer la réalisation de ce dispositif que préside monsieur Barral au niveau du Conseil général, et qui devrait, dans les mois à venir, donner des signes d'amélioration. Il y a également des rendez-vous qui sont pris avec la Chambre d'agriculture dès demain, avec le député dès demain, pour justement dresser le bilan des secours qui peuvent être apportés et éventuellement de certaines aides pécuniaires auprès des personnes les plus touchées. Donc nous savons aujourd'hui que quand une pareille catastrophe survient, on est toujours tenté de trouver des responsables, ce qui est la moindre des choses. Je puis vous dire que les expertises sont en cours, les documents d'urbanisme qui ont été délivrés aux promoteurs ou aux opérateurs en termes d'aménagement ont été conformes, ont été validés par l'État. Nous tenons à la disposition de certaines personnes, j'en connais notamment à Montlieu au niveau du collectif Félicidad, il y a un courrier du mois de juillet, signé de la main de M. Cassard, qui est à mes côtés, qui stipule bien les risques encourus par des travaux qui ne seraient pas parfaitement étanches, parfaitement conformes. Les pompiers sont venus pomper pendant 3 jours. On a vidé 3 fois tout le cuvelage, malheureusement. Il y a vraisemblablement des difficultés dans les infiltrations, puisque la nappe phréatique remonte. Donc tout cela est en cours d'expertise. Des contacts ont été pris par divers interlocuteurs, dont le président de l'association des colotis, le syndic. Et bien entendu, il n'est pas dans mes habitudes de désigner une seule personne responsable de tous ces malheurs, mais l'expertise qui est menée nous dira où sont les responsabilités. En tout cas, je tiens à dire que le document d'urbanisme délivré était parfaitement réglementaire et parfaitement dans l'esprit. Un esprit que nous allons faire évoluer également depuis que le patio de Carmen a été construit à Mouguio, qui est pourtant sur un point haut. Il y a toujours de l'eau, puisque la nappe affleure à Mouguio, et que nous sommes en train de modifier le PLU pour demander, avec l'accord de l'État, un relèvement des seuils possibles, de sorte qu'on n'ait plus, en quelque endroit que ce soit de la commune, les profondeurs qui sont celles que nous avons aujourd'hui et qui causent aux personnes du Félicida, aux personnes du patio de Carmen, aux personnes de celles qui sont à côté de la mairie ou à Carnon, des difficultés telles que celles qu'ont connues également les commerçants de Carnon, puisqu'ils ont eu toute leur cave inondée. Donc il y a une prise en compte que nous n'avons pas attendue aujourd'hui. Le PLU date de 2006, il a été validé par l'État. Et je tiens à dire que toutes les observations qui seront celles que vous ne manquerez pas de faire seront portées au crédit d'un plan de prévention dans lequel l'urbanisme trouvera toute sa place. Voilà, je tenais à dire tout cela, d'abord. Et que dans 2 jours, en principe, on aurait savoir que nous sommes dans le registre des communes sinistrées pour obtenir des indemnisations. Donc, en fin de réunion, après le Conseil, s'il y a encore des personnes qui n'ont pas été contactées ou qui n'ont pas eu des promesses de rendez-vous, nous sommes à votre disposition. Je sais que beaucoup d'élus ont été sollicités, des élus de toutes parts. D'ailleurs, je remercie les élus qui sont dans l'opposition, qui se seraient éventuellement portés au secours. J'ai eu un message de M. Capelletti, dont j'excuse l'absence aujourd'hui, donc qui m'a contacté. Je sais que d'autres l'ont fait auprès des services pour justement faire preuve de l'élan de solidarité. Une solidarité qui n'a rien à voir avec les personnes qui sont dans la majorité ou pas dans la majorité. Voilà. Donc, je tenais à dire ces choses-là en préambule. Et bien entendu, toutes les suites juridiques, expertises seront données à cette affaire, en sachant que très rapidement, nous ferons le possible pour que les gens soient indemnisés. Au niveau des informations, je vous informe également que d'ici la fin de la semaine prochaine, les Carnonais, je dis bien les Carnonais, vous Carnonais, allez recevoir un document sur le transport dans lequel il y aura la thématique du tram pour que vous vous exprimiez. Vous aurez 15 jours pour le faire et cela à peu près du 15 octobre au 30 octobre. Ensuite, il y aura un dépouillement et nous tirerons les enseignements pour justement définir avec le pays de leur agglomération, le syndicat mixte et le transport, les orientations que souhaite la population, en fonction également des orientations que nous avons prises, qui sont celles de faciliter la liaison intramuros et également avec le territoire montpelliérain. Comme autre information, je donne également une information dans l'évolution du pôle accueil et solidarité, où la présidente, Mme Andréa, nous a fait part de son intention d'arrêter en sa qualité de présidente, l'administration de cette association à caractère humanitaire. Pour autant, elle va continuer. L'accueil solidarité va se muer en une forme d'épicerie solidaire où, au lieu d'avoir une forme d'assistance en termes de banque alimentaire, on aura une aide justement pour arriver à gérer. Nous avons tenu l'autre jour un conseil du CCAS, un conseil d'administration, une initiative qui a été, disons, approuvée à l'unanimité, qui est celle d'aider les gens à gérer leurs difficultés, de les apprendre à sortir de la crise. Et je salue l'unanimité, là, avec tout le sérieux qui convient, puisque d'un côté comme de l'autre, tout le monde était d'accord, et donc, bien entendu, chacun sera associé à l'évolution de cette disposition au service de nos concitoyens. Pour terminer, en termes d'information, la presse s'en est fait l'écho, vous le saviez, donc il y avait un recours contre l'élection de l'équipe que j'ai l'honneur de présider, donc c'est un recours qui avait été introduit par M. Bourguet, donc j'ai bénéficié, M. Bourguet a été député, donc c'est une procédure qui est arrivée à son terme, Et je tiens à dire que je me sens, je suis satisfait de cette disposition qui lève toute ambiguïté sur toute transgression présumée du code électoral et du caractère qui a présidé à cette campagne, et qu'aujourd'hui, je laisse le soin à M. Bourguet et à certains de ses colistiers signataires du recours, certains n'ayant pas suivi, si vous voulez travailler avec nous, nous sommes bien sûr prêts à tendre la main pour travailler avec vous. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de nous faire savoir. Voilà. Donc je voulais dire que nous avons une justice en France et je lui fais confiance. Voilà. Ça, c'était les informations données. Monsieur Bourguet, vous avez la parole.
Oui, puisque vous avez terminé sur l'affaire qu'il y avait entre nous, donc je voulais juste dire que, parce que ça n'a pas été dit dans la presse, que vous aussi vous avez été débouté des 3000 euros que vous avez demandé à mon encontre. Ceci dit, la page est tournée et on va travailler ensemble comme on le fait depuis le début. Voilà.
Dans l'échelle des grands, si c'est ce qui vous satisfait le plus, ça me satisfait également.
Voilà. Alors, je voulais juste revenir sur les inondations vite fait. Hein. C'est pas pour faire de, je ne veux pas faire de polémique rien du tout. C'est une catastrophe naturelle. Mais malgré tout, il y a des choses. Par exemple, à Carnot-Ouest, il y a eu des inondations, mais c'est aussi des pompes qui n'ont pas fonctionné. Il y a sur les travaux d'Ocvia des choses qui n'ont pas fonctionné et qui ont inondé une partie de Mogio. Il y a eu des problèmes à l'école des Garrigues qui n'a pas été évacuée en temps et en heure avec 40 cm d'eau dans l'école et des enfants en danger, une école qui n'a pas d'étage. Et puis, il y a cette histoire, bon, l'immeuble de la route de Candiar, vous en avez parlé, donc je compte sur vous pour recevoir les gens très rapidement. Voilà, je voulais juste rappeler qu'on est dans un territoire très fragile au niveau des inondations et que donc ça serait bien que les choses soient prises vraiment au sérieux quand il y a des menaces.
Je suis entièrement d'accord avec vous, M. Bourguet. Je ne peux pas vous laisser dire que les enfants de l'école des Garrigues n'ont pas été évacués à temps. Aucun moyen de communication n'était possible, et ce sont les pompiers qui les ont sortis de cette affaire vers 8h du soir. C'est vrai qu'ils n'avaient pas de lumière, ils n'avaient pas à manger, et les liaisons étaient très difficiles. Et je me tourne vers vous avec tout le sérieux qu'ici à ce sujet pour vous dire combien nous avons été prévoyants de ne pas accorder les permis de construire sur les berges de l'étang de l'Or, qui sont des berges fragiles. Et le gros souci que nous avions, heureusement que les cavaliers sont des gens qui sont, comme je dis au ministre, malheureusement rompus à l'exercice, et vous comprendrez pourquoi une zone dense, une zone urbanisée peut bénéficier de certains services, et malheureusement, les zones fragilisées qui sont en bord de l'État, qui sont des zones romantiques, des zones merveilleuses, des zones de cavaliers, ne sont pas des zones qui, demain, peuvent bénéficier, suivez mon regard, des installations qui pourraient être celles dont elles bénéficieraient si elles étaient dans le secteur dense. Et je puis vous dire que c'est un gros souci. Je puis vous dire que c'est un gros souci d'avoir des personnes qui ont refusé un permis de construire qui vous appellent pour vous dire un sonnoir. Et je peux vous dire que quand il y a péril pour les bêtes, pour les personnes, nous savons secourir. En revanche, l'imprudence qui est celle de braver la nature comme nous l'avons bien intégré à Carnon, où nous avons opté pour le recul stratégique, j'en profite pour dire aux Carnonais que nous sommes dans une phase d'étude pour recharger la plage, afin qu'on ne connaisse pas une érosion qui, l'année prochaine, nous prive complètement de plage. Nous sommes en train d'y travailler avec, nous avons une réunion avec Madame la sous-préfète la semaine dernière, nous aurons l'occasion d'en reparler. Je puis vous dire que, s'il est un point que je partage, M. Bourguet, c'est bien la fragilité du trait de côte, et la fragilité des dispositions en termes d'urbanisme qui sont celles de vouloir bâtir à des endroits où on ne peut pas. Et je puis vous dire, vous avez mis en cause également Ocvia, les travaux d'Ocvia ne sont pas forcément réputés être les responsables de certaines inondations, puisque même là où il n'y a pas Ocvia, là où la canoë a sauté, c'était pas dû aux travaux d'Ocvia. Je puis vous dire qu'il va y avoir une restauration de sa liaison du CD-189 au CD-172 à Mouguio, qu'on va élargir le pont des Aiguerelles et essayer d'éviter d'avoir à nouveau des personnes inondées, Et ça me fait pas rire quand le président de Airbus vient, et ça me fait pas rire quand le président de Cavane, ça me fait pas rire du tout. Je vous dis franchement. Voilà, au moins ça c'est dit. Voilà, donc on va attaquer. Madame Campanos, la touche carlonaise, carlonaise, je vous écoute, madame.
D'abord, j'ai à remercier. J'ai été prévenue de l'alerte rouge par téléphone. Donc, je suppose qu'il y a un système d'alerte. Et donc, j'invite, je dirais, toute personne qui pourrait être intéressée, pour que, parce que c'est intéressant d'être prévenu, et ça ne fait qu'une quinzaine d'années où les municipalités mettent en marche de telles choses. Donc, peut-être que c'est à perfectionner quand c'est une attaque de la mer ou quand c'est une inondation, mais c'est vrai qu'être prévenu qu'on passe en alerte rouge, ça permet, entre guillemets, de conscientiser qu'il peut y avoir un danger. Donc ça, c'est... Je suis heureuse d'avoir été prévenue. Vous venez de parler de rechargement de la plage, c'est peut-être en certains endroits, mais moi je peux vous assurer que l'hiver dernier, par deux fois, à Carnon-Ouest, on a eu un banc de sable de 10 à 15 mètres de large qui a atterri. Alors on était contents parce qu'avec les travaux de la digue ouest, il y avait une marche, une double marche à la fin de la jetée, là elle est remplie. La dune a été rechargée, mais les voisins, eux, ils en ont pâti. Et je dirais que je suis prête à venir à un groupe de travail, je ne dis pas une commission, un groupe de travail qui réunirait les élus responsables, les adjoints responsables et les agents en charge de la gestion du sable sur le littoral. Parce qu'il y a des erreurs, il y a des choses qui ne sont pas comprises par la population. Sur un espace de 50 mètres de long, 20 mètres de large, on a fait intervenir 4 engins entre la fin du mois de...
4 engins ?
Oui, un tractopelle et 3 bulldozers entre le fin mai et début juillet. Les tractopelles, c'est des engins et des bulles, c'est difficile. Ils ont travaillé 2 heures à chaque fois. Et tout le monde a rigolé en disant.
Bon, mais tant mieux que les gens aient rigolé à un certain moment, parce qu'on rigole pas.
Mais non, on aurait fait ça en une demi-journée ou une journée complète, on aurait économisé et tout le monde aurait été rassuré.
Vous avez fait votre intervention, qui n'a rien à voir avec les inondations, puisque c'est de la porte de sable et pas de la porte d'eau. Allez, on passe au point du jour. Donc je vous informe de la délibération numéro 137, en date du 29 juillet 2014, portant sur la création d'une régie temporaire d'avance pour rembourser les cartes de garderie scolaire. La 138, en date du 29 juillet 2014, portant sur la destination de maître pilote pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la requête introduite par le syndicat des copropriétaires de résidence L'Homme du Port, le 27 juillet 2014, devant le tribunal administratif de Montpellier. La 149, en date du 6 août 2014, portant sur des contrats de spectacle dans le cadre des animations de la fête motive du samedi 9 au dimanche 17 août 2014, inclus. La 150, en date du 1er septembre 2014, portant sur l'aliénation pour cession de véhicules dans le cadre de réquisition de matériel neuf. La 151, en date du 2 septembre 2014, portant sur la destination de Maître Valls pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la succession de Mme Pélissier. La 152, en date du 2 septembre 2014, portant sur la désignation de maître Dylan Schneider pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la requête enregistrée sur le numéro 14-0-32-0-33-60 le 23 juillet 2014 devant la cour administrative d'appel de Marseille. La 153, en date du 2 septembre 2014, portant sur la désignation de maître Audouin pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la requête enregistrée sur le numéro 14-MA-028-98 le 12 août 2014 devant la cour administrative d'appel de Marseille. La 154, en date du 4 septembre 2014, portant sur les subventions accordées à M. Olivier Dumonceau de la somme de 1724,49 dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. La 155, en date du 5 septembre 2014, portant sur une présentation théâtrale Parcours humoristique de la commune le 20 septembre 2014 d'ASNUF, par la compagnie BAO pour un montant de 1544,65 €. La 156, en date du 5 septembre 2014, portant sur une représentation théâtrale le samedi 27 septembre 2014, le cri de la feuille par la société prune pour un spectacle pour un montant de 5 650 €. La 157 en date du 12 septembre 2014 portant sur la destination de Maître Pilon pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre des requêtes enregistrées sous les numéros 13MA-04-986 et 13MA-04-987 devant la Cour administrative de Marseille. Enfin, la 158 en date du 17 septembre 2014 portant sur la désignation de Maître Julien pour représenter la commune dans le cadre de la procédure devant la tribunal correctionnel de Montpellier. Vous avez, en page 2, le portrait des procédures adaptées relatives au marché public pour les sommes incluses de 15 000 à 90 000 euros hors taxes. Et sur la page 3, les procédures adaptées supérieures à 90 000 euros hors taxes. Et on a eu une procédure formalisée, c'est-à-dire une commission d'appel d'offres, relative à l'accord de fourniture et acheminement de gaz naturel. Au bas de la page 3, tandis que sur les pages 4 et 5, vous avez toutes les consultations relatives à tout ce qui est investissement au niveau des services techniques. Alors je sais que tous les plans ne sont pas parfaits, je sais que de temps en temps il manque un peu de lumière dans certains endroits, et à Montreux et à Carnot. On a des problèmes sur les câbles enterrés, les services y travaillent, on trouve petit à petit, on répare, 200 000 euros sont consacrés chaque année à l'enfouissement des réseaux. Tout à l'heure, Madame Laurent détaillera par le menu les investissements qui ont été faits et les ajustements du budget supplémentaire. Voilà. Et donc, nous sommes bien conscients qu'il y a eu que quelques dysfonctionnements sont dus à la vétusté des réseaux, et qu'une station comme celle de Carnot ou de la Grande Motte, qui ont 40 ans, en termes d'équipement premier, sont des installations qui doivent être entretenues, elles le sont, et il y a toujours, bien sûr, des endroits où il y a encore du travail à faire. C'est la raison pour laquelle nous consacrons des investissements importants dans la maintenance de tout ce qui est service. Le point numéro 2 est relatif au règlement intérieur du conseil municipal. Vous en avez été les uns et les autres destinataires. Donc, j'expose à l'Assemblée qu'en vertu de l'article L2121-10 du Code général des collectivités territoriales, les communes de plus de 3500 habitants doivent se doter d'un règlement intérieur. Donc, je vous propose ce règlement intérieur qui a été très légèrement rectifié par rapport à l'ancien règlement. Et je puis vous dire que depuis que je crois autour de la table, je suis peut-être un des plus anciens élus, je ne sais pas, on n'a jamais eu besoin de sortir le règlement intérieur pour donner la parole ou pour faire sortir quelqu'un. C'est un gage de la tenue de la qualité des débats. Je suis un démocrate, tout le monde peut s'exprimer, et quand on est porté de bonne volonté, et qu'on fait des remarques quand elles sont constructives, quand elles enrichissent le débat, je me dois, en tant que chef de la police de l'Assemblée, de donner la parole à toutes les personnes qui veulent enrichir le débat. Nous avons la chance d'avoir ce soir des concitoyens qui montrent que la vie citoyenne accompagne la vie des élus, j'en suis ravi. Et donc, si vous avez des remarques à faire par rapport à ces dispositions, je vous invite à le faire tout de suite. Alors, on va vous dire ce qui a été modifié. Non. Pardon. Oui. L'article 22. Je vous le lis, comme ça tout le monde sera au courant. L'expression de l'opposition dans les bulletins d'information de la commune. Premier point. Lors de chaque parution du bulletin d'information intitulé la tribune de Bouillot-Carnot, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Point numéro 2. Cet espace sera diffusé sous l'intitulé Expression libre. Point numéro 3. Les textes devront respecter le caractère institutionnel du magazine et être adressés à M. le maire 15 jours avant l'émission du bon à tirer. un courrier fixant la date limite sera adressé aux représentants de l'opposition avant chaque parution. Point numéro 4. Un espace d'une demi-page, c'est-à-dire 2200 signes, est réservé à l'expression des conseillers de l'opposition au prorata de leur représentativité, c'est-à-dire en fonction du nombre de signataires de l'article, l'article sera plus ou moins long. Voilà. Des remarques ? Monsieur Broguet ?
Oui, je veux faire une remarque sur l'article 8, accès et tenue du public lors des conseils municipaux.
Oui.
Donc il est écrit, comme c'est le cas dans 98% des communes en France, le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis et garder le silence. Alors vous avez fait un article dans une tribune sur la démocratie participative. Je vous demande s'il ne pourrait pas commencer à la mettre en place, ce qui se fait dans quelques communes déjà, c'est-à-dire que dire qu'avant l'ouverture du conseil municipal, pendant 30 minutes, la parole est au public. Voilà, c'est ça la démocratie participative.
C'est votre conception de la démocratie participative.
C'est comme ça qu'elle se met en place dans certaines communes.
Que je respecte. Que je
c'est une question, hein.
Oui. Et la réponse est non. J'associe l'opposition dans toutes les commissions. Je pense que le conseil municipal.
Je ne parle pas en tant qu'élu, je parle du public. Mais vous dites que vous m'associez dans les commissions, oui, mais moi je suis élu, j'ai la parole.
Voilà.
Je parle pour le public.
Mais le public, il a missionné 33 personnes autour de cette table pour les représenter. À partir du moment où on a transféré la compétence, c'est comme la compétence que dit en France. Si c'est l'agglomération qui la gère, ce n'est plus la commune. Nous sommes les représentants au suffrage universel. Parfois c'est compliqué pour arriver à être, vous l'avez remarqué, et vous le remarquez encore, que c'est difficile d'être à la tête des affaires. Et une fois qu'on y est, on assume. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai passé l'après-midi à Calamont, vendredi après-midi, je n'ai pas eu que des félicitations. J'ai pris la température, il y en a qui étaient contents, d'autres non, à mon lieu séparé. Donc effectivement, j'ai dit tout à l'heure, qu'à la fin du conseil municipal, s'il y avait des personnes dont le cas n'avait pas été pris en compte, bien sûr que nous étions à votre disposition, nous, c'est nous tous, les élus, vous en faites partie, monsieur Bouquet, il n'y a pas de souci. En revanche, je ne souhaite pas que le conseil municipal soit un joyeux théâtre dans lequel tout le monde s'exprime. Ça peut être joyeux, tant mieux, mais la solennité dans les villes comme Montpellier, comme à Paris ou comme ailleurs, ce genre de proposition n'a pas trouvé d'écho. Nous avons également des permanences, je le rappelle, les élus font des permanences, je ne vous empêche pas d'en faire. Nous en faisons même à Carnon depuis ce mandat, moi-même j'en fais, tous les premiers mercredis du mois, les élus en font. Donc j'estime que quand une personne a quelque chose à dire, eh bien elle peut venir le dire, il n'y a pas de souci, c'est la démocratie participative, voilà. Il y a aussi la concertation, nous allons donner un formulaire pour le transport. Quand nous réaliserons certaines, il y a la concertation le 14 octobre pour la fond de Mouillon, qui est un sujet qui vous est cher, qui m'est cher aussi, et j'espère qu'il ne sera pas cher pour les jeunes qui seront accédés dans 3 ans à des logements, y compris des logements en locatif aidé. Donc il y aura la concertation le 14 octobre, vous en ferez partie si vous le souhaitez, comme en feront partie au cours de 2 autres séances des citoyens qui le souhaitent, il n'y a pas de souci. Donc je respecte votre position, monsieur Bourguet, je lui donne la suite. Voilà.
Merci.
Bien. D'autres questions, monsieur Pradel ?
Oui, bonsoir, monsieur le maire, mes chers collègues. Je tiens à saluer le public carnonais. Juste un mot au préalable pour m'associer aux félicitations pour l'engagement des personnels de la mairie en période d'inondation. Moi, je les ai vus à des horaires induits en train de déboucher le pont des Passes. Donc, je vous demande de transmettre, je pense, l'unanimité du Conseil pour les remercier.
Merci, monsieur Prodé.
Sur le règlement intérieur lui-même, on stipule que le conseil municipal est censé se réunir, une fois par trimestre. Est-ce qu'on ne pourrait pas, de la même manière, stipuler que, au moins une fois tous les 6 mois, les commissions sont censées se réunir? Moi, je suis membre de 2 commissions, les affaires scolaires et l'urbanisme. Je n'ai pas eu l'honneur de me réunir, alors qu'il y a des tas d'affaires que j'aurais préféré voir en commission, ça aurait été plus agréable pour tout le monde dans nos échanges. Donc ça pourrait faire partie de nos... ça pourrait faire partie d'un amendement que je vous propose.
Monsieur Bradel, pour, sans vous couper, le budget que nous exécutons aujourd'hui, parce que c'est ainsi que cela se dit, exécuter un budget avec un budget supplémentaire est le fruit de l'équipe précédente. Vous êtes maintenant dans une nouvelle équipe. Nous allons ensemble préparer le budget primitif et bien sûr, tout le monde sera associé à des commissions, toutes commissions confondues, qui définiront les orientations de la politique municipale majoritaire et avec les critiques constructives venant de notre part, je ne doute pas qu'il y en aura, pour justement préparer le prochain budget. Effectivement, il y a eu peut-être un déficit dans certaines commissions, ça dépend des commissions, voilà. Mais ne soyez pas en souci, c'est quelque chose qui est en route pour préparer le prochain budget.
Et ma proposition d'amendement pour ce soir ? Votre réponse ?
D'amendement ?
Oui, je vous propose qu'elles se réunissent une fois tous les 6 mois. Ben, sous la même forme que le conseil municipal.
Elle se réunira plus que ça. Il y aura plus de réunions tous les 6 mois, monsieur.
Ben, votre bonne foi est acquise, j'ai compris. Ma proposition de l'inscrire au règlement intérieur en amendement ce soir ?
Non.
Non, d'accord. Deuxième proposition. Vous avez évoqué, et on a eu un accrochage pendant l'été, la notion de conseiller municipaux référent. Je reviens sur mon intervention. Je trouve que le fait qu'il y ait des référents de quartier, et je sais que certains d'entre eux se donnent à fond sur cet engagement-là, comme ça n'a pas de support légal, formel, on aurait pu mettre des conseillers délégués, on aurait pu donner une délégation de quartier, on ne l'a pas fait. Est-ce qu'on ne peut pas mettre, pour qu'ils aient un peu plus de poids, ces conseillers référents, est-ce qu'on ne peut pas l'inscrire à notre règle intérieure? Il y a pour les quartiers des conseillers référents qui peuvent par exemple réunir, leur donner la capacité de réunir des assemblées de citoyens. C'est ma deuxième proposition, monsieur le maire, pour aller dans le sens de votre initiative de début de mandat.
Écoutez, nous avons une équipe qui a des fonctions qui sont bien délimitées. Il y a le point, le jeunesse et solidarité, il y a le conseiller au quartier, oui, monsieur Sanchez. Voilà, il est là-bas, donc il est entouré de toutes les bonnes volontés. Si vous voulez vous joindre à lui, vous pouvez le faire, mais on n'a pas jugé utile, dans les délégations que j'ai données en début de mandat, de multiplier d'autres délégations que celles. Il y en a une au quartier, il y en a une au port, et il y en a une troisième aux traditions taurines. Vous savez qu'en plus, elles sont limitées dans ce mandat. On ne peut pas en donner plus qu'un certain nombre. Cela dit, vous pouvez... Vous semblez avoir peur de ne pas être associé. Toutes les fois, la mairie vous est ouverte, vous le savez. C'est la maison du peuple, c'est celle des élus. Et n'ayez pas peur, vous êtes cordialement invité à participer autour que fait monsieur Sanchez. Au contraire, ça fera...
Sur ma proposition de l'inscrire à notre règlement intérieur, vous leur donnez un peu plus...
Non, mais monsieur Bradet, le règlement intérieur, c'est le règlement du conseil municipal. Vous êtes en train, pas d'inventer, de faire des propositions qui sont dans un fonctionnement d'une vie municipale qui n'ont rien à voir avec le contenu d'un règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est la police de l'Assemblée, c'est la manière dont se déroule la tenue de cette séance. Ensuite, libre à vous de faire des propositions, et pour qu'une proposition soit bien étudiée, il faut qu'elle soit proposée, pas forcément en séance. Vous savez comme moi, et vous n'êtes pas né de la dernière pluie, que ce qu'on présente comme ça tout à coup en séance, c'est quelque chose qui répond à une logique vraiment d'immédiateté, de spontanéité qu'on n'avait pas pu prévoir, ce qui n'est pas le cas, soit peut-être à une manœuvre un peu plus hardie, qui est celle de dire, tiens, je vais tenter le coup pour savoir ce que ça donne, mais ça donne rien, voilà. Mais proposer pour une autre fois.
Non, mais comme quoi les conseillers référents auront vu que j'ai essayé de me battre, qu'ils ont un peu plus de moyens, ils l'ont remonté.
Voilà, ils l'ont vu déjà pour demain. À vous, monsieur Mouret.
Oui, juste sur l'article 26.
Oui.
Il est dit que les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.
Oui.
Alors pourquoi le cas échéant ? Est-ce que les budgets sont toujours déposés à la mairie de Clermont ?
Bien sûr. Si une personne demande à Clermont le budget, elle bénéficie du porté à connaissance du budget. Il n'y a pas de souci, monsieur. Oui,
d'accord.
Je pense que nous avons bien intégré Clermont dans la nouvelle gouvernance et qu'il y a des choses qui se mettent en place.
Donc c'est parce qu'il y avait marqué le cas d'échéance, c'est pour ça que j'ai douté.
Oui. Vous voulez qu'on parle le cas d'échéance ?
Oui.
Et en mairie.
Et en mairie.
Voilà.
Vous prenez le siège. C'est bien. Allez. Est-ce que, à l'exception de cette remarque, tout le monde est d'accord pour l'adoption de ces dispositions? On met au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Abstention? Combien? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et monsieur, alors, Agnès Muller, qui s'est levée. Elle est d'accord. Vous la remercierez de ma part, monsieur Malo. Merci. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à madame Laurent, qui va donc nous exposer le budget supplémentaire qui est, alors, elle le dira mieux que moi, l'ajustement du budget primitif, un budget qu'elle n'avait pas elle voté, mais dont elle assume bien entendu la continuité, au nom de la continuité de la gouvernance, de la logique, de la cohérence, des services rendus aux citoyens et des charges nouvelles qui sont celles que la commune a connues entre le moment où le budget primitif a été préparé, voté, et maintenant cette fin d'année où pour faire finir l'exercice, après que nous ayons eu à notre connaissance les comptes de gestion au mois de juin, eh bien nous allons ajuster les prévisions qui avaient été faites, comme vous le verrez, elles étaient pertinentes. Madame Laurent, c'est le temps.
Alors, moi, en introduction, je voudrais quand même faire une introduction parce qu'on a reçu un courrier de la Direction Générale des Finances Publiques qui félicite la commune de Montieu-Carnon pour la qualité comptable de sa collectivité et lui attribue la note de 19,6 sur 20. Donc, vous voyez, ça vous fait quand même plaisir à l'intégralité du prospect et que ça méritait d'être noté avant de démarrer le budget. Alors, ce budget supplémentaire, effectivement, comme ça vous a été dit, c'est un budget d'ajustement puisqu'effectivement, toutes les dépenses et toutes les recettes ne peuvent pas être fournies lorsqu'on fait le budget primitif. Alors, on va démarrer par la section de fonctionnement avec des recettes de fonctionnement pour lesquelles on a rajouté 2 091 000 euros. Alors, il y a bien sûr l'excédent qui a été reporté, qui est le report du compte administratif 2013 pour 1 793 834 euros. Et ensuite, on a, aux alentours de 300 000 euros, je vais vous donner les chiffres exacts, les produits et services, 146 000 euros supplémentaires. On a les dotations et participations, 108 600 euros. Alors là, une précision quand même qui mérite d'être apportée. On a perçu la dotation nationale de péréquation, 110 000 euros. Mais en revanche, les dotations de l'État ont été diminuées de 102 000 euros. On a ensuite perçu des subventions FIPD. Donc FIPD, c'est le Fonds interministériel de prévention de la délinquance qui nous a versé 5 000 euros. On a une subvention pour le fonds d'amorçage des rythmes scolaires. On a touché 80 000 euros. Ça veut dire à peu près 50 euros par enfant. Je précise que c'est pour l'année 2014-2015. On ne sait pas pour l'année prochaine. D'autres subventions, donc je peux vous donner quelques exemples. Pour les relations internationales, 2 000 euros. Mécénat, c'est du sport, 5 000 euros. Ensuite, dans les autres produits de gestion courante, 1 200 euros. Et en produits exceptionnels, 41 850 euros. Alors là aussi, on a eu une subvention Sésame Autisme pour le fonctionnement de l'unité d'enseignement autistique, 4 600 euros. On a eu également des subventions pour la soirée Wake Up, Urbaine Essence et la Romérie, à hauteur de respectivement 650, 10 000 euros et 2 500 euros. Voilà pour les recettes de fonctionnement.
Je me permets de remercier le Rotary Club qui, samedi, a organisé l'action, et c'est dommage, je vous remercie qui est parti, en faveur des enfants autistes et du CESAD qui va être ouvert en 2015 à Montpellier.
D'accord.
Merci. À la madame Nicolet.
Okay. Ensuite, les dépenses de fonctionnement. Donc, on a là aussi un complément de 2 091 000 euros et 105 000 euros de report, c'est-à-dire des dépenses qui restent à réaliser, notamment au niveau de la voirie. Alors là, on retrouve au niveau des dépenses des charges à caractère général. Donc, on a un complément de 372 000 euros qui ont été apportés et un report, un reste à réaliser voirie qui était en train de terminer, de 105 000 euros. On a en charge supplémentaire et 50 000 euros d'eau supplémentaire. On a ensuite, au niveau d'autres charges et dépenses, des fournitures diverses pour des travaux effectués par les services, 49 500 euros. On a l'entretien des terrains, qui est essentiellement les terrains qui concernaient la rénovation de l'espace Sicilia pour 15 000 euros et l'encadrement des terrains et des tennis, 6 000 euros. On a l'entretien des voies et des 15 000 euros et 90 000 euros de report essentiellement de dépenses qui ont été enregistrées. Ensuite, un poste important, les charges de personnel. Donc on a eu un complément de 300 000 euros. Alors, il y a déjà eu la réforme des revues scolaires. Il a fallu recruter des animateurs et des coordonnateurs, et donc ça a coûté 100 000 euros à la commune. Et puis, on a eu la réforme des catégories C, 140 000 euros. Donc, depuis le 1er février 2014, on a les grilles indiciaires des agents des catégories C. Ils ont été revalorisés en moyenne de 5 points majorés. Dans certains cas, ça peut atteindre 6 points et 10. Donc, cette réforme a concerné l'ensemble des fonctions publiques et s'impose donc aux collectivités territoriales. Pour Mondou, pardon, il y a environ 300 agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet qui ont été impactés. Il y aura une nouvelle vague de revalorisation au 1er janvier 2015. Il y a également ce qu'on appelle la GIPA, qui est une garantie individuelle du pouvoir d'achat, qui est un dispositif qui a été mis en œuvre en 2008 par décret pour les agents publics lorsque leur traitement indiciaire brut évolue moins vite sur une période de 4 ans que l'inflation. Pour l'année 2014, ce dispositif a été reconduit par arrêté au mois de mars et son coût pour 2014 a été estimé à 10 000 euros supplémentaires par rapport à 2013 en raison du tassement des échelles des agents de catégorie C. Ensuite, toujours dans les dépenses de fonctionnement, des atténuations de produits, ce qu'on appelle le PIC, qui a coûté 50 000 euros supplémentaires. Alors, je rappelle que le PIC, c'est un système de solidarité, c'est-à-dire que les communes riches, par exemple, au Beaujolais, doivent contribuer en faveur des communes moins dotées.
Dites
riches, voilà. Alors, c'est quand même une charge qui est importante, puisqu'en 2012, la commune de Beaujolais contribuait à hauteur de 26 000 euros. En 2013, le montant de la contribution est passé à 83 000 euros. On pensait en 1994 que 113 000 euros avec le prévu au budget primitif, ce serait suffisant. Et en fait, ça va coûter 160 000 euros à la commune. Donc comme on avait prévu 116 000 et que c'est 160, tous les 50 000 euros différenciés.
La communauté d'agglomération verse également, elle, une somme plus importante. Elle est la seule à faire.
Oui, d'accord.
Avec aussi notre argent.
C'est exactement. On a ensuite la participation et autres charges de gestion courante, 19 000 euros supplémentaires. Les charges financières, 13 000 euros, c'est en fait la régularisation des intérêts communs non échus. On a 30 700 euros de charges exceptionnelles. Alors parmi ces 30 700, il y a une personne qui est décédée et qui a fait un legs à la commune de Montbiot sur des terrains et des maisons. Donc il a fallu payer, bien entendu, des frais de notaire. On a les dotations aux provisions pour 32 000 euros. Les dépenses imprévues, 8 380 euros. Et ensuite, le virement donc à la section d'investissement, c'est-à-dire notre autofinancement, qui s'élève à 1 160 000 euros. Ensuite, on a également la réhabilitation des... Les dépenses d'investissement, donc on va passer aux dépenses d'investissement. Donc 1 163 000 euros, on a supprimé 143 000 euros de dépenses, je vais en parler, et il y a également 4 588 229 euros de report. Alors ce report, il faut savoir que pratiquement tout est payé, sauf la réhabilitation du château, contre le mairie. Alors, on a au niveau des dépenses d'investissement inscrites au budget supplémentaire, on a les immobilisations incorporelles de 43 000 euros, ce sont essentiellement des acquisitions de logiciels. On a des subventions d'équipement qui ont été versées, 10 000 euros. C'est notamment pour les subventions pour la réfection des façades du centre-ville. On a des immobilisations incorporelles pour 520 000 euros. Alors parmi elles, je peux vous citer une réserve foncière qui est à 153 000 euros. On a également fait des travaux pour les bâtiments scolaires, 12 000 euros. L'acquisition de matériel roulant, en fait on a acheté une laveuse de voirie, 142 000 euros. L'acquisition de mobilier urbain, donc suite notamment à l'inclusion des gens du voyage, on a rajouté 30 000 euros pour un dispositif anti-intrusion sur différents parties. Ensuite, on a acheté du matériel informatique, 36 000 euros, notamment des tablettes liées au rythme scolaire. On a ensuite du mobilier, 30 500 euros pour équiper la classe, l'unité d'enseignement autistique et la classe supplémentaire à Jean Moulin. Et puis on a d'autres immobilisations pour 67 500 euros. On a ensuite les immobilisations financières de 37 000 euros. Alors ça concerne les créances sur les communes, rappelez-vous, où on a cédé des actions à Valère. Ils ont pu payer que les 1 tiers, donc il reste 2 tiers à payer. Donc du coup sur les 57 000, on a 37 000 euros de vente des actions de la SPLA à la commune de Valère. en opération d'investissement la sécurité des bâtiments sportifs à côté de 10 000 euros pour les mises en conformité des stades pour l'homologation. On a l'extension de la bibliothèque de Carnon qui a coûté 80 000 euros. On a également la réhabilitation du yacht club qui a coûté 126 000 euros. On a également le poste de secours du Lido qui a coûté 250 000 euros. Et la vidéoprotection à Carnon Ouest qui a coûté 80 000 euros. Donc du coup, ce qu'il nous faut retenir, c'est qu'on a eu en recettes nouvelles 2 091 000 euros qui ont été principalement constitués donc, par l'excédent dégagé au compte administratif de 1 793 000 euros, par des recettes nouvelles de 297 000 euros. Donc du coup, grâce à ces recettes, on a pu financer la réforme des rythmes scolaires, la montée en charge du FPIC, la réforme des catégories C dont j'ai parlé tout à l'heure, les obligations d'entretien des bâtiments des terrains de la voirie pour un montant total de 931 000 euros. Alors le solde 1 160 000 euros a permis d'une part de diminuer l'emprunt qui était prévu au budget primitif puisqu'on a supprimé 400 000 euros d'emprunt pour le financement de la rue Léon-Joux et d'autofinancer les travaux et les acquisitions de matériel nécessaires à la réalisation du service. Ensuite, ou le budget supplémentaire du port de Carnon. Alors, pour la section de fonctionnement, les recettes, on a la vente de produits et de prestations de services pour 17 500 euros, c'est essentiellement le carburant. On a la reprise sur amortissement et les provisions pour 10 000 euros. Et un excédent ordinaire qui a été reporté, donc la reprise du résultat 2013, 432 183,64 euros. En dépenses de fonctionnement, on a des charges à caractère général pour 37 100 euros. C'est l'achat de carburant supplémentaire notamment. On a l'entretien et la réparation de biens immobiliers, 72 000 euros, qui correspondent notamment aux 60 000 euros pour le dragage de l'avant-port suite à l'ensablement. On a également donc, des charges de personnel pour 10 000 euros, puisqu'elle a recruté une personne supplémentaire donc, de septembre à décembre. On a des charges de gestion courante 10 000 euros, des charges financières de 20 000 euros, c'est la régularisation là aussi des intérêts communs non échus. Et puis on a des charges exceptionnelles pour 4 500 euros. Ensuite, des dotations aux provisions 40 000 euros. Donc c'est le complément de provisions que l'on fait pour charges par rapport au dragage qui va coûter 406 000 euros. Il y a l'impôt sur les bénéfices, bien entendu, 79 900 euros. Et ensuite, ce qu'on appelle les opérations d'ordre entre sections à hauteur de 60 000 euros. Ensuite, les dépenses imprévues, 683,64 euros, et on a viré à la section d'investissement 197 000 euros. Et donc la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement, qui correspond à notre autofinancement là aussi. En recettes d'investissement, alors, on a le virement de la section de fonctionnement de 197 000 euros, l'excédent antérieur reporté 142 034,23 euros, ça c'est le résultat du compte administratif 2013. On a un excédent de fonctionnement de 254 365,77 euros, 100 000 euros de subvention d'équipement, donc ça c'est une subvention du Conseil Général pour l'opération des pontons GHI du bassin ouest. On a 50 000 euros d'emprunt, donc on a supprimé 30 000 euros d'emprunt pour l'opération des pontons GHI du bassin ouest, et on a rajouté 80 000 euros pour l'aménagement de parc à bâtir. Ensuite, les opérations d'ordre à hauteur de 60 000 euros. Et on termine par des dépenses d'investissement avec en immobilisation incorporelle 6 500 euros, en immobilisation corporelle 180 500 euros, en opération d'investissement du ponton GHUI, donc sur le bassin ouest 140 000 euros et le parc à bateau 80 000. Voilà pour la présentation du budget supplémentaire de 2013.
Des remarques ? Madame,
j'aimerais savoir pourquoi les crédits sur la. Comment dire ? Sur le jardin du Bosquet a disparu. Il y avait marqué 80 000 euros et le projet est abandonné. Qu'est-ce qui se passe ?
On a rajouté 42 000 euros.
On est à 80 000 euros.
C'est au budget primitif, les 80 000 euros. Donc, ils sont toujours, ils sont dans le budget primitif. Ils ne sont pas dans le budget supplémentaire.
Ils ne sont pas dans le budget, on n'a pas rajouté. On a gardé le projet dans le commandant, on avait aménagé le mosquée, côté nature, on voit. Les 80 000 euros sont inscrits. On sait même que ça ne suffira pas, on en ajoutera, au budget primitif de 2015.
Merci.
Madame Arminovici.
Bonsoir. Bonsoir. Juste une petite précision pour savoir pourquoi le chapitre 65, redevances pour licences et logiciels, a explosé. C'est-à-dire qu'en fait, on passe de 2812 sur le compte administratif 2013, et là, on rajoute 15 500 euros.
Alors, attendez, je vais vous répondre, je le cherche. C'était inscription ici.
Chapitre 65, article 651, page 16, sur le budget qu'on a.
Ah,
je n'ai
pas les mêmes
pages.
Alors, attendez,
je retrouve
le matériel informatique, c'est ça?
Non, les redevances.
Ah, tu l'as là?
L'article 651.
Alors, ok. Je l'ai ici. Alors, effectivement, je vais vous expliquer. Il y a eu la subvention. C'est les progiciels, voilà. Il y a eu un progiciel de gestion de la dette et de prospective financière avec des licences qui nous a fallu remplacer et racheter à hauteur de 15 500 euros. C'est ce qui a coûté cette fois-ci. Donc, toutes les licences qu'il fallait racheter et un progiciel de gestion. Voilà. Après, le reste, si vous voulez, la différence est assez minime, les 4 000 et quelques euros. Il y avait notamment la subvention au vicieux tourisme. On avait rajouté un complément également pour le vicieux tourisme.
Merci.
Oui, peut-être une ou deux questions et après un avis. J'aimerais qu'on se mette au clair, puisqu'on doit avoir les premiers chiffres, sur le coût du périscolaire. Mon arrière-pensée étant d'essayer de vous faire aller vers la gratuité du périscolaire. Donc j'aimerais que vous me disiez quel est le coût. Alors j'ai bien noté qu'il y avait le fonds d'amorçage qui était 80 000 euros. Vous me dites que c'est 2014-2015. L'État vous l'a signifié comme ça.
Pour l'instant, on n'a rien pour l'année. Pour l'instant, c'est que 2014-2015, on a 50 euros par enfant.
Je ne l'ai pas vu inscrit, moi, dans le BS.
Ah bon,
le fonds d'amorçage.
Si,
il vient. Alors il est dans une subvention.
Oui, il est en subvention. Subvention
d'amorçage
de scolaire
à 80 000
euros, ça
ressemble. D'accord. Ce que nous donnent les parents, alors, ça, vous l'avez chiffré à combien parce que vous devez avoir les premières projections.
Alors, ça, tu as fait une information, pas encore le retour des versements, puisque ça
c'est
pas
récent. Alors, comme on a opté pour 4 tarifications, 0,40 centimes. Pour les familles les moins. On en avait parlé dans les conseils. Je vois que vous avez la suite à des idées. Je m'en souviens très bien. Comme quoi, je prends au sérieux ce que vous me proposez.
Ah, bon, chaque mois, monsieur.
Qu'on était passé de 0,40 à 1,50 pour les familles qui avaient. Qui étaient au-dessus de certains plafonds. Aujourd'hui, nous n'avons pas le retour pour savoir combien de familles, à peu près, ont versé plutôt. Enfin, on aura davantage. En gros, on a la moitié des familles. La première évaluation fait état d'une famille sur deux qui serait à 0,40 plutôt par rapport aux autres. Et on n'a pas encore les.
Mais
dans
tous les cas, c'est deux mois, c'est un peu trop.
On n'a pas le retour.
Mais vous auriez reculé le PS, ça ne m'aurait pas dérangé, madame.
Ouais, mais moi, oui.
Vous l'auriez fait un novembre, ça ne posait pas de problème.
Par la suite, pour le
rythme scolaire. Pour moi, c'est une question centrale. Parce que si j'ai bien. Je ne dis pas une bêtise si je vous dis que les recettes des parents, on l'a fait passer en bébé, on l'avait estimé à 20 000 et là on rajoute 70 000. C'est ça qu'on a envisagé pour les recettes des parents. Je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Ça fait 90 000 plus 80 000. Et je vois. Alors, est-ce que je me trompe si. S'il faut regarder dans le coût, c'est non titulaire pour le coût du personnel, le coût de ce que ça va nous coûter. Et c'est le BS prévoit 64 000.
Non, 100 000.
Donc ça veut dire qu'on équilibrerait, on fait un peu plus équilibré d'après ce que vous me présentez. Mais est-ce que, comme ça, à la louche, on peut savoir combien ça nous coûte, combien on a de redevances des usagers et à combien on équilibre le budget du personnel?
On était dans un budget global de 700 000 euros. On était à peu près.
En annuel, hein,
on était à peu près de participation de 2/3 pour la commune, 1/3 pour les parents. Mais dans la commune, il y a aussi les parents, de manière. C'est-à-dire que le contribuable paye à peu près dans les 450 000 euros, 460, dans les estimations qui avaient été faites, le contribuable. Et les parents vont donner dans les 250, 300, ils n'y arrivent pas. Ça, c'est en fonction de l'usager. C'est-à-dire que les consultations qui ont été menées avec les familles nous ont fait remonter que les parents préféraient payer effectivement en fonction de leurs revenus. C'est une discussion qui a été abordée. Plutôt que nous avons opté pour cette solution, plutôt que pour une gratuité qui, en fait, est un report d'impôt sur tous les contribuables. Il nous a semblé naturel que la solidarité impose une prise en charge, comme on le fait par exemple pour les classes transplantées. Le budget d'une classe transplantée, la neige par exemple, c'est 2/3 la commune, 1/3 les parents. On est parti sur cette base.
Mais monsieur Muller, quand vous dites la commune, vous parlez de
fiscal, c'est-à-dire
contribuable. Contribuable, c'est-à-dire État plus commune.
Non, mais contribuable, commune. L'État, les fonds propres.
Hein. Alors, vous pouvez me redire, parce que vous avez omis que l'État finance un peu, alors.
C'est fondamentalement sage, c'est comme quand on va à la pêche, on agrade, mais après c'est fini.
Vous savez que les discussions sont de pérenniser le fondamentalement sage. Si moi, s'il faut me battre pour dire qu'il faut le maintenir, il me faut quelques biscuits, monsieur le maire.
Mais biscuits, je ne dirai pas, c'est des biscuits, c'est pour la survie. Il va falloir donc effectivement intégrer cette somme qui n'est pas décisive, elle est de 80 000 euros, ça représente un peu plus de 10% du budget général. C'est rien. Ben, c'est rien. C'est toujours ça. Mais c'est peu.
C'est comme vous nous donnez beaucoup d'éléments, si vous pouviez faire une information au conseil un peu cohérente, comme je veux dire, sur. C'est pas une attaque. C'est, comme j'ai du mal à vous suivre parce que vous me donnez beaucoup d'éléments, si vous mettiez tout ça sur une seule feuille, je serais le plus heureux des hommes. Et vous devez avoir une feuille lorsque vous, monsieur le maire, vous la lisiez.
Déjà, sur 200 pages, on en a fait une synthèse. Si vous voulez une demi-page ou un quart de page sur les.
Non, mais je vous parle d'extraire le bris scolaire. Parce qu'on n'a pas parlé de la carte sans plus.
Alors, dans le compte rendu du conseil, apparaîtront les sommes globales que vous évoquez, que vous demandez. Voilà.
Je vous remercie, monsieur. Pour revenir sur d'autres, excusez-moi si je suis long, mais les chiffres, c'est toujours. Ça nous passionne, parce que c'est de l'argent public. Sur les crédits d'investissement sur l'école Albert Camus, vous nous proposez là une rallonge de presque 500 000, je me trompe pas.
Sur les dépenses d'investissement.
Oui, sur Camus.
Alors Camus. Ah, c'est la fin
du.
Où est-ce qu'on l'a mis
alors?
Où est-ce
qu'on l'a mis? C'est un mouvement, ça. C'est un mouvement courant, effectivement. Non. Parce que pour le temps que vous retrouviez, moi qui ne suis que le lecteur de la tribune, j'avais cru en lisant la tribune de l'an dernier. De septembre 2013, j'avais cru qu'on bouclait à 5 349 000 et que Camus l'an dernier était payé.
C'est payé. C'est le report. C'est payé déjà. Ça se termine là, c'est la fin de l'année. Donc on l'a là la
et je vois.
Je vais vous donner la page, pour ça vous allez le voir.
Et je vois que vous équilibrez.
Et est-ce. Donc vous l'avez, vous prenez votre tableau, c'est la ligne 9055.
Et je vois que vous équilibrez avec une subvention de 200 000 du Conseil général.
à venir. Elle est versée.
Monsieur Pradel, ne laissez pas passer le policier général dans le bon argent, il ne prend pas la policier. Il a donc un grand défi. Attends, vous savez, sinon on les perd. Mais une chose m'étonne, vous n'êtes pas la commission de finances.
Non.
Non, vous avez fait une erreur de casting, vous l'auriez dit. Bon,
c'est allez. Sûr. Hein.
Non, mais par contre, le dossier a été versé.
Donc là, en fait, au BS, la décision.
S'il vous plaît, messieurs, dames.
La décision, c'est pas une décision de relance, ce qu'on est en train de faire?
Non, pourquoi une décision de relance?
Donc c'est. Ok. C'est juste un report. Ok, très bien. Allez, bien. Juste une pour la route. Sur les vestiaires de rugby à 80 000 euros qui étaient au CA, au comité administratif de 2013, je vois qu'ils sont en reste à réaliser. Je les vois toutes pas réalisées.
Les vestiaires de rugby?
Oui. Donc ça veut dire qu'on est presque à un an de...
Ça va commencer d'ici 4 jours.
D'ici 4 jours, ça veut dire que là on est au BS pour 2014, ça veut dire qu'on les boucle en 2014.
Oui. C'est les vestiaires, c'est pas un château.
C'est pas les vestiaires, on refait sanitaire, c'est sanitaire.
Sanitaire
plus la douche des vestiaires.
Non mais, je suis d'accord avec vous, c'est pas le château, on aurait dû le faire en 2013 comme on l'avait annoncé.
Le château ou
non, les vestiaires.
Ah, le
on les a annoncés en 2013 et on va les boucler en novembre 2014, pas de problème.
Comme ça, ils se sont rhabillés, ils sont allés se rhabiller pour 2014.
Et la dernière, parce que je voulais...
Non, vous avez dit la dernière.
Et la dernière, des dernières pour la route. Sur la vidéo protection...
Oui, Carnon, notamment, j'en ai parlé tout à l'heure.
Oui, Carnon, formidable, vous l'annoncez. Je vous l'annoncez et vous escomptez de M. Valls une subvention de 33 millions.
C'est pas lui qui l'a donné.
Je me souviens, on l'a voté ensemble. Mais celle de Monvio, je vous ai demandé si on l'avait bouclée, et en lisant votre document, je ne la vois pas bouclée. Si elle est bouclée, je ne la vois pas en réalisé, moi je suis...
C'est bouclé, alors je vais peut-être pas bouclé, mais c'est bouclé,
C'est bouclé posé?
Non,
bouclé, c'est pas du bouclé posé.
Non mais c'est du bouclé. Non mais Mogio, c'est du bouclé posé?
Mogio c'est fini, Mogio, oui. Mogio c'est fini depuis...
Merci, Carnot, ouais, c'est du bouclé.
Donc je ne l'ai pas vu en réalisé, moi, ça, dans vos documents. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir, on va pouvoir aller voir où ils sont ensemble.
Voilà.
Moi, je propose un crédit de 50 euros pour que Mme Laurent témoigne de M. Prodeil, les choses sont racontées. Allez.
Bonjour.
Ah,
une question ici.
Monsieur Bouquet.
Oui, juste deux questions. Il y a une augmentation du budget de l'eau de 50 000 euros. Alors qu'on a recruté un ingénieur fluide pour faire des économies, j'aimerais savoir à quoi c'est dû.
Oui, alors je peux vous répondre par rapport à ça. Effectivement, ça nous a aussi interpellés. Donc du coup, on a plusieurs explications. Déjà, il y a eu une erreur d'index de la part de la SOR. Donc il y a eu une demande de dégrèvement qui se sont plantés. Donc on a demandé 10 000 euros de dégrèvement. Ils nous ont déjà versé 2 500 euros et les 7 500 euros vont arriver d'ici la fin du mois. Ensuite, il y a eu 3 grosses fuites sur des canalisations qui sont effectivement abîmées sur Carnon. Le souci, c'est qu'avant qu'on s'aperçoive des fuites, puisque le sol c'est du sable, l'eau s'infiltre, et quand on s'aperçoit de la fuite, forcément ça quand même coule déjà pendant pas mal de temps. Alors ça concerne essentiellement les espaces verts. Alors, sur les espaces verts, alors vu que ce sont des réseaux qui sont anciens, il a été décidé effectivement de prévoir pour le budget primitif de 2015 de rénover, comme ça avait été fait en 2011 de mémoire, le réseau par tranche, puisqu'effectivement, comme on s'aperçoit des fuites un peu trop tard, ça nous fait faire des, non pas des économies d'eau, mais au contraire des dépenses d'eau qui sont importantes. Ensuite, cette année, ça a été un petit peu particulier, puisqu'il y a eu une programmation de l'arrosage des espaces verts au printemps, ce que l'on fait en général un petit peu plus en décalé, mais il a fait un printemps qui est anormalement chaud. Donc si on cumule l'erreur de la SOR, les 3 grosses fuites des canalisations d'un réseau qui est ancien et qu'il faut refaire, et ensuite le fait qu'on ait arrosé plus tôt, ça nous fait 50 000 euros, donc ça nous a énormément interpellés aussi, et lors des questions, ça sera produit l'année prochaine.
Voilà. Ensuite, je voulais poser une question, parce qu'on a des revenus de notre patrimoine immobilier. On me dit que le restaurant de la Passerelle Martin s'est fermé. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il en est?
Les repreneurs sont en train, il y a une consultation avec les repreneurs et on a bon espoir qu'au prochain conseil municipal, nous pourrons désigner le nouvel attributaire. Bien. Bon. On passe au vote.
Donc je demande le vote du budget supplémentaire pour la quote globale. Qui est
et contre, qui s'abstient, qui est pour? Merci.
Est-ce que je peux faire une toute petite remarque? C'était, on avait déjà évoqué une fois, ça aurait été bien que la synthèse, on puisse la recevoir avant, parce qu'on est tous, 80% des conseillers municipaux sont des bénévoles, ça nous aiderait bien d'avoir les synthèses à l'avance. Merci.
On vous fournit le document, monsieur Bourguet. La synthèse, c'est l'explication de l'adjointe qui la donne au conseil. Moi, je l'ai eu que ce soir.
Oui, mais...
Non, mais c'est un document, si vous voulez, qui est fait pour le service financier.
Je le demande pour nous faciliter la tâche, mais...
Oui, il y avait la commission finance, quand même, qui avait été faite pour laquelle il y a eu quand même des situations qui avaient été faites. En commission finance, il faudrait bien qu'il y ait d'autres participants. Voilà, il y a plus de gens à faire. Mais vous n'êtes pas élus, c'est dommage, vous êtes tout compris.
J'ai croisé M. Capelletti par hasard lors des sénatoriales à la préfecture.
En mars, vous l'avez vu.
Et il m'a dit faire une commission des finances à 16h quand on ne veut pas qu'il y ait l'opposition, c'est comme ça qu'on fait.
Mais c'est pour ça qu'il y a M. Santapo.
C'est le point de vue de M. Capelletti que je me défends
d'autre mesure. Mais... C'est très curieux qu'il vous ait dit ça, je ne sais pas si c'est votre avocat, parce que moi il m'a écrit en revanche en me disant qu'il était déjà venu la dernière fois, on l'avait fait à 16h30, il était tout à fait disponible, et cette fois-ci c'était exceptionnel, que sa venue ne pouvait pas lui permettre pour une raison plus publique, parce qu'il ne me regarde pas. Mais on a échangé, vous voyez, par mail, et il n'a pas du tout eu le même discours avec moi. Donc quand il sera là, on lui demandera si vous voulez.
Donc c'était pour vérifier s'il se rapprochait de vous, oui, c'est en
chambre. Il se rapprochait non, mais non, oui.
Bon, ne mettez pas ça, procédez-moi. Sinon, mon copain Jean, il va peut-être. On passe au vote du budget du port. Qui est contre? Qui s'abstient? Le port. Qui est pour?
Le port.
Je vous remercie. Donc nous passons maintenant au point numéro 4 qui est relatif à l'actualisation du coefficient multiplicateur de la taxe sur l'électricité pour 2015. Bonjour Mme Laura.
Alors, M. Le Maire expose aux membres du conseil municipal que les taxes locales d'électricité communales et départementales sont calculées à partir des quantités d'électricité consommées par les usagers pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 200 kWh. Oui, ça va, non, pas les tarifs de référence qui font l'objet d'une modulation par la collectivité sont ainsi fixés à 0,75 centimes d'euros par mégawattheure pour les consommations non professionnelles et les consommations professionnelles d'une puissance souscrite inférieure à 36 kWh. 0,25 centimes par mégawattheure pour les consommations professionnelles d'une puissance souscrite comprise entre 36 kWh et 250 kWh. Alors, le coefficient multiplicateur permettant de moduler les tarifs de référence doit être voté par l'Assemblée délibérante de la collectivité avant le 1er octobre de chaque année. Pour une prise d'effet au 1er janvier de l'année suivante, le coefficient est encadré par un minimum et un maximum, et la limite supérieure du coefficient multiplicateur est indexée en proportion de l'activité. Pour information, en 2014, le coefficient multiplicateur de la taxe communale a été fixé à 8,44 par délibération 133 en date du 5 août 2013. Et M. le maire propose de fixer à 8,50 le coefficient multiplicateur de la taxe communale sur l'électricité de 2015.
En passant, oui, madame. Comment
nous sommes le 6 octobre.
C'est normal, les semaines étant prises la semaine dernière.
Oui. Et
donc, ça me semble légalement caduque. D'autre part, c'est un impôt supplémentaire qui augmente au niveau du taux, puisqu'on passe de 8,44 à 8,50. Donc, je trouve ça comme un impôt supplémentaire pour ceux qui ont fait de l'électricité. Et on est le 6 octobre, pas le 1er.
Madame Camarano, vous pensez bien que le conseil était prévu la semaine dernière, comme je l'ai dit, et que c'est exceptionnel, nous ayons dû reconvoquer le conseil. renforcée par rapport aux états de l'air. C'est un cas de force majeure. Voilà.
Mais peut-être à l'avenir.
Imprévisible et irrésistible.
D'accord, mais peut-être qu'il eût été très préférable de voter une telle augmentation dans un conseil municipal plus tôt dans l'année. Parce que comme ça, on aurait eu la possibilité de.
On n'a pas d'informations suffisamment tôt dans l'année pour pouvoir voter. Donc on le vote au dernier moment. Malheureusement, il y a eu la catastrophe de la semaine dernière qui nous avait.
Et pourquoi vous augmentez la catastrophe en augmentant le temps?
Non, ce n'est pas la catastrophe.
Ah ben, 8,44 à 8,50, c'est chacun dans sa facture d'électricité qui va avoir l'impact.
Et si vous étiez à la place de Mme Laurent, qu'est-ce que vous feriez, madame, comme réponse? Des bougies? Comment pouvez-vous? On est obligé. Je souhaiterais, moi, que quant à l'augmentation, elle soit jamais supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, même si je le remets.
C'est pas l'augmentation du kilowatt, c'est l'augmentation du coefficient multiplicateur. Donc il suffit que le kilowatt augmente, et on dit toujours que les kilowatts sont fournis par EDF de plus en plus cher. Et en plus, si on multiplie les taxes afférentes, la facture de tout un chacun va augmenter.
Eh oui. Bien. On passe au vote. Qui est contre? Vous n'avez pas de pouvoir. Qui s'abstient? Qui est pour? Point numéro 5. Cessation d'actifs, reprise de facto, fait les conventions. Madame Laurent, elle fait aussi les conventions.
Alors, monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal qui contient dans le cadre de l'acquisition d'un tractopelle et de céder par une reprise le tractopelle commercial du côté B97. Le prix de cession du tractopelle a été fixé dans le cadre d'une consultation sur le marché d'acquisition de véhicules spécifiques, numéro 14031. Donc, caractéristiques du bien cédé, il faut que je lise tout cela. Pourquoi pas? Donc, montant de la reprise 28 000 euros, monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir adopter la proposition dans tout son contenu.
Voilà, on achète un tractopelle qui vaut 500 000. Vous êtes curieux? Montant de la reprise de 28
000.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette pénalité. Travaux de réfection de couverture du château des Gondes de Belgueil. Demande de subvention auprès de la DRAC que vous m'en aurez.
Alors, monsieur le maire expose aux membres présents. En 2007, la commune a acquis une partie de l'ancien château des pompes évêques de Belgueil, érigé au XVIe siècle. Cette demeure, assise au 23 rue du Drou, a été démolie à la fin du XVIe siècle et reconstruite à l'issue des guerres de religion au début du XVIIe siècle. Cet édifice prestigieux se révèle unique dans la région par sa poussée à nervure, impliquant une parfaite maîtrise de la taille des pierres par ses constructeurs. L'ancien château des comtes évêques de Belgueil est classé au titre des monuments historiques en totalité en date du 30 juillet 2010 par le ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que le sol des parcelles correspondantes à Mondio, situées rue Widerot, 16 rue Gambetta et 6 place Jean Jaurès, figurant au cadastre section AN numéro 186, 187, 194 et 452. D'importants travaux de restauration sont prévus sur l'édifice qui pourrait accueillir à terme un centre d'interprétation du patrimoine sur l'histoire du comté de Belgueil, première cité médiévale du Val-en-Gaudoc. Les modalités de restauration du château et sa destination finale ont été agréées par la DRAC. Compte tenu des délais d'études, désignation du maître d'œuvre, réalisation et validation des DCE et passation des marchés de travaux, il est nécessaire de prendre des mesures visant à la mise hors d'eau provisoire du bâtiment principal soumis aux intempéries. Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir solliciter auprès de la DRAC une subvention complémentaire à hauteur de 50% pour le financement des travaux de couverture provisoire du château, dont le montant estimatif s'élève à 11 850 euros hors taxe, soit 14 220 euros TTC, et autoriser l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Voilà, Madame Poulin, donc à votre disposition pour répondre à toutes les questions inhérentes à la réflexion du château des comptes de Belgique. Il n'y a pas de question.
Pas de question.
On fait voter.
Donc,
qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cet effort partagé pour le patrimoine.
Je voudrais juste rajouter, ça c'est un aparté, qu'on avait demandé une subvention à la région qui a été absolument refusée. 148 000 euros qui n'ont pas été versés en nous disant que ça ne rentre pas dans la priorité du conseil régional alors qu'ils ont un pôle culture et patrimoine. Mais c'était une parenthèse.
À 148 000 euros.
Voilà. Point numéro 7. Mandat spécial dans le cadre du jumelage de la commune Beauvais, du 19-22 septembre 2014. J'expose aux membres du conseil municipal, de M. Christophe Laverie. Conseiller municipal délégué aux relations internationales s'est rendu à Beauvais, Italie, du 19-22 septembre dernier, dans le cadre du jumelage initial des deux cités. Cette visite avait pour objet de représenter notre commune à l'occasion d'une cérémonie de commémoration de l'incendie qui a ravagé la ville le 19 septembre 1943. Le remboursement des frais engagés se fera sur la base des frais réels. Les crédits sont inscrits au budget de la commune. Je propose au conseil, membre du conseil, d'autoriser le remboursement de tous les frais engagés pour l'exécution de cette mission. Aujourd'hui, oui, monsieur Prodet.
Je vous avais déjà fait la remarque lors d'une délibération similaire. Si on marquait à la place, en dernière ligne, le remboursement de tous les frais, si on était le remboursement des frais de déplacement, on serait pile poil dans les coups juridiquement et on serait beaucoup plus tranquille, puisque les frais de déplacement font frais réels, on est d'accord, et les frais de séjour se font aux frais forfaitaires. Vous m'aviez dit la fois dernière que notre cher collègue était reçu par l'habitant. Oui. Il n'y a pas de frais de séjour. Donc vous proposez.
C'est pas systématique, mais on vous dira ce que ça a coûté si vous voulez.
Non, mais c'est ça. Mais...
De plein essence, il ne gère pas notre événement.
Non, mais je vous propose simplement qu'à la place de tous les frais, on marque les frais de déplacement aux frais réels. Je vous propose cet amendement-là pour être pile poil dans les clous juridiques.
Si ça peut vous satisfaire, si ça change rien, moi je veux bien. Oui,
c'est pas, non, c'est pas dans le mandat spécial, hein, les
ouais, ouais, ouais.
La gerbe.
Ça ne veut pas.
Elle veut pas la gerbe, qu'est-ce qu'elle veut pas? J'ai pas compris la.
On le rajoutera.
Vous avez voté mon amendement. J'ai réussi à faire passer un amendement, moi aussi, d'ailleurs.
Vous pouvez laisser, monsieur Prodet. Encore quelques années. Point numéro 8. Avenant en concession d'exploitation des lots de plage. Voilà un sujet typiquement carbonné.
C'est court, hein.
Le préfet de l'Hérault a accordé la concession de plage naturelle à la
commune de Gardon.
Pardon ?
Je ne suis pas sûr qu'on ait voté sur l'affaire du.
On n'a pas voté ?
Non.
Ah, excusez-moi. Donc, qui compte ? Qui s'abstient ? Merci pour cette belle unité. On le dira à M. Clavery, qui est en ce moment est à Oiseau-sur-Glane avec des élèves du collège de Mogio. Le principal, Mme Riche de Lancourt, est également la compagne des enfants. Pour un devoir de mémoire et travail sur ce qui s'est passé pendant la guerre. Le préfet de l'Hérault, disais-je, a accordé la concession de plage naturelle à la commune de Moigno-Carnon pour une durée de 15 ans, à compter du 1er janvier 2000. La commune a conclu des conventions d'exploitation de plage avec délégataires privés dans le cadre de procédures de délégation de services publics. Les lots suivants ont fait l'objet d'une délégation de services publics pour attribution. Le lot numéro 1, à Madame Zornero, plage des Lézards. Le lot numéro 4 à Madame Favier, le club Big Bang. Lot numéro 7, Monsieur Réveillo Aïmédi, le Pambré. Lot numéro 8, Madame Michel, le Mistral.